Je vous propose de commencer. Bonjour. Comme je vous l'avais expliqué la semaine dernière et préparé déjà peut-être un peu le terrain précédemment, j'ai cette année eu pas mal de difficultés finalement à suivre le plan de marche que je m'étais fixé parce que les sujets que j'ai voulu traiter sont tellement riches et se sont surtout tellement enrichis ces 5 ou 10 dernières années qu'il est devenu virtuellement impossible de faire une série de cours sur 3 ou 4 domaines différents, comme je l'avais prévu, c'est-à-dire les bactéries, les virus et les parasites dans leur interface avec le système immunitaire. Donc, ce que j'ai fait pour cette fois-ci, comme je vous l'avais laissé anticiper, c'est de vraiment compléter l'approche sur virus et système immunitaire, c'est-à-dire sortir des aspects, disons, trafic cellulaire, rôle du cytosquelette cellulaire et du piratage du cytosquelette cellulaire par les virus pour leur cycle d'entrée et de replication dans les cellules et de dissémination, donc de rentrer vraiment dans l'interface avec le système immunitaire lui-même, ce qui est un bloc très très important. J'ai essayé de vous résumer et surtout d'insister sur les choses, disons, les plus excitantes au sens des stratégies utilisées par les virus et les plus récentes. Et comme d'habitude, vous aurez la plupart des références pertinentes ou quand les références sont trop nombreuses, des revues qui contiennent, si vous vous y référez, ces références pertinentes. Donc ça, c'est pour cette fois-ci. Vous aurez néanmoins de la parasitologie, puisque le scientifique qui doit faire le séminaire aujourd'hui est Robert Ménard et vous parlera essentiellement des phases précoces de l'infection par Plasmodium, et en particulier les phases finalement de traversée de la peau et de premières interfaces avec le système immunitaire de cette partie du cycle du parasite qu'on appelle le sporozoïte, et vous verrez que c'est très riche en plus en imagerie dynamique. Et puis la semaine prochaine, je vous avais dit que j'allais laisser la thématique cancer pour cette année de manière à la reprendre l'année prochaine, parce que le thème du cours l'année prochaine sera inégalité vis-à-vis des maladies infectieuses, donc le cancer sera bien entendu un des éléments importants à prendre en considération. Et je voulais vous faire depuis longtemps, parce que finalement j'en ai jamais véritablement parlé depuis le début de ces cours, quelque chose sur les vaccins. Et je me disais qu'après avoir fait finalement 5 cours sur la façon dont les microbes se moquent du système immunitaire, je pourrais peut-être quand même vous faire un cours sur la façon dont l'homme se moque des microbes grâce au développement de vaccins, et vous faire un petit peu non seulement revue de là où va le champ des vaccins, mais aussi de toute cette problématique d'acceptabilité, de personnalisation de la vaccination. Vous aurez néanmoins un séminaire sur le cancer, puisque Hilde de Reuze viendra vous parler des processus de cancérogénèse, en particulier gastrique, liés à Helicobacter pylori. Donc voilà comment j'ai essayé, je vous demande de m'en excuser, mais encore une fois, j'étais un peu dépassé par mon sujet de me rétablir, et je tâcherai l'année prochaine de revenir sur les points que j'étais amené à laisser de côté cette année. J'espère néanmoins que vous ne regretterez pas, parce que les virus, c'est comme ça, je parlais un peu vulgairement, si vous avez aimé les bactéries, vous allez adorer les virus. Donc ça, je ne vais pas vous refaire un quiz comme la semaine dernière, tout le monde sait que c'est un virus herpès. Et c'est simplement pour illustrer un petit peu mon propos, mais surtout pour dire d'emblée que lorsqu'on va commencer à parler de stratégie finalement d'évitement du système immunitaire par les virus de la famille herpès au sens large, herpès simplex, cytomégalovirus, Epstein-Barr, sont des maîtres dans l'art de manipuler le système immunitaire et ont d'ailleurs été bien souvent, entre guillemets, des précurseurs dans la découverte de ces mécanismes de manipulation du système immunitaire. Donc, au fond, quand on y réfléchit un tout petit peu, c'est évident que les virus sont passés maîtres dans la manipulation du système immunitaire. Et pour ça, il y a deux raisons. La première, c'est qu'en termes d'organismes vivants, même s'ils ont besoin des cellules pour être vivants, ce sont sans doute les plus nombreux. Ce sont ceux qui ont la plus forte capacité finalement de modification et donc la plus forte capacité de répondre aux défis que leur lance éventuellement le système immunitaire de leur hôte. Donc on n'est pas très étonné au fond, compte tenu de cette exigence de vie en intimité avec les cellules, puisque les virus ne peuvent pas survivre en l'absence de cellules hôtes, ils aient finalement développé une myriade de stratégies. Et on pourrait presque dire, sans exagérer, qu'il n'est pas une étape, un nœud, une intersection, une voie de signalisation dans le système immunitaire qui ne soit ciblée par un effecteur d'un virus X, Y ou Z en fonction de nécessité, encore une fois, du fait de la coévolution et de la pression sélective pour ces virus de finalement d'échapper et de survivre. Alors ce qui est très intéressant, on en avait déjà parlé, peut-être pour ceux d'entre vous qui n'étaient pas là, je peux juste le redire rapidement, c'est que, en fond, on n'aime pas être infecté par un virus, mais bien souvent, ça pourrait être bien pire qu'on l'imagine. Et en réalité, on est dans cette situation due à la coévolution d'équilibre. Et probablement, peu à peu, si la coévolution continue, on va se retrouver avec des phénomènes de tolérance à ces infections virales. Et on le voit bien avec finalement deux pôles de cette situation. On voit par exemple l'extrême gravité, bien souvent de l'irruption d'un nouveau virus qui passe la barrière d'espèce et se développe dans l'espèce humaine. On le voit dans les quelques cas, heureusement rares pour l'instant, d'infection au virus de la grippe H1N1. On le voit dans les infections par les filovirus, par exemple l'Ebola. Ce sont des situations finalement où l'espèce humaine se retrouve brutalement confrontée à des espèces virales auxquelles elle n'était pas habituée, et le choc est généralement extrêmement violent, et finalement les individus vont éventuellement décéder, pas tant au fond du virus lui-même que de l'excès de réaction qu'ils vont imposer ou s'imposer pour éliminer ce virus. Quand vous avez une infection respiratoire comme par un virus H5N1 et que vous détruisez votre poumon pour essayer de détruire le virus, c'est bien évident qu'il n'y a pas de poumon de rechange et on va donc en payer les conséquences. Inversement, on voit très bien souvent, et le VIH en a été un exemple, que les grands singes qui ont été finalement les hôtes primitifs à partir duquel le virus VIH a fini par se disséminer dans l'espèce humaine après le passage de sauts d'espèces, en fait, ces animaux sont très généralement porteurs asymptomatiques de ces virus, et parce qu'ils sont finalement coévolués depuis très très longtemps et quasiment se sont spéciés phylogéniquement en étant porteurs de ces virus pour certains d'entre eux. Donc on est dans des situations finalement relatives en matière d'interface entre l'hôte et les virus. Vous me direz néanmoins que certaines infections virales très classiques peuvent être tout à fait dramatiques et je ne vous dirai pas le contraire. Alors, l'infection virale des cellules, et on va en reparler beaucoup, déclenche bien sûr des réponses cellulaires, et on a véritablement une catégorie de médiateurs qui vont assurer le contrôle de cette infection virale. On en reparlera X fois parce qu'en réalité, de facto, cette voie de signalisation qui amène à la production de ce médiateur, qui sont les interférons de type 1, vont être encore et encore la cible d'effecteurs viraux pour essayer d'éteindre en fait cette réponse cellulaire qui va être délétère pour le cycle de réplication du virus. Et c'est ces interférons de type 1, interférons alpha, interférons bêta, ont été montrés in vitro, clairement, et in vivo, être véritablement des éléments essentiels de la réponse innée, immédiate, permettant de contrôler le cycle de l'infection et de la replication et de la dissémination virale. Les souris, par exemple, déficientes dans le récepteur aux interférons alpha, bêta, ce qu'on appelle l'IFNAR, hein, interferon receptor, sont en fait hypersensibles aux agents infectieux. On utilise d'ailleurs ces souris dont on a détruit le gène du récepteur des interférons de type 1 pour pouvoir finalement étudier la virulence de certains virus pour lesquels autrement on n'aurait pas véritablement de modèle expérimental du fait de l'extrême sensibilité de ces animaux. Et on commence à voir des mutations chez l'homme qui causent des infections extrêmement graves chez un nombre extrêmement restreint d'individus. On en reparlera l'année prochaine justement dans ces problématiques d'inégalité, parce que bien entendu, la génétique de l'hôte est un élément important. Lorsqu'on a des mutations dans ces voies de signalisation, les gens sont généralement hypersensibles, curieusement à certains virus, pas à d'autres, ce qui nous dit d'ailleurs que les modèles souris ne sont pas toujours totalement pertinents de ce qu'on observe chez l'homme, mais ça, on en reparlera l'année prochaine. Alors, le rôle de ces interférons type 1, on y reviendra, c'est énorme, y compris non seulement cette réponse innée, c'est-à-dire cette réponse générique à un agent infectieux, mais aussi la mise en place, l'orientation, la définition en fait, de la qualité de la réponse immunitaire, puisque en fait, le coup de grâce final à une infection virale, en règle générale, va être donné par le développement d'une réponse adaptative, spécifique et pas uniquement une réponse innée, avec deux grandes populations cellulaires qui vont être essentielles, dont on va reparler, qui sont les lymphocytes T auxiliaires, ce qu'on appelle les lymphocytes T helper, CD4+, et les lymphocytes T cytotoxiques, définis par la présence en particulier du marqueur CD8+. Alors, cette histoire d'immunité innée, non spécifique finalement, spécifique des genres microbiens étrangers à l'homme, mais non spécifique des caractéristiques antigéniques des micro-organismes en général, on en a déjà parlé X fois, donc elle est impliquée dans la défense précoce contre les infections virales. Il est indispensable d'avoir cette réponse innée, sinon non seulement on n'arrive pas à mettre une barrière immédiate à l'infection, mais en plus, encore une fois, on n'arrive pas à monter correctement la réponse adaptative qui va être nécessaire à l'éradication finale de cette infection. Pour les bactéries, c'est moins un problème, la réponse spécifique, parce que la réponse innée arrive globalement à contrôler correctement certains processus infectieux. Pour les virus, on a vraiment ce risque permanent avec certaines espèces virales de chronicité, de latence. Et il faut vraiment que le système immunitaire aille jusqu'au bout de ses capacités pour véritablement assurer l'éradication d'un virus. Donc cette immunité innée, elle est de nature diverse. Il y a des barrières physiques, chimiques, on ne va pas revenir là-dessus, bien entendu. Il y a des systèmes de détection, on va revenir là-dessus parce que c'est très important. Il y a des cellules phagocytaires, éventuellement des cellules présentatrices de ces antigènes viraux, en particulier les cellules dendritiques, on y reviendra. Il y a de temps à autre, en particulier sur les cellules altérées par l'infection virale, l'activation du complément et le rôle du complément dans la liste des cellules infectées. Les cellules natural killer, on y reviendra. Et puis, il y a ces interférons de type 1, alpha, bêta, qui vraiment modulent la production de virions, modulent dans le sens du contrôle négatif, bien entendu. Alors, les grands progrès dans ces 10 dernières années, en fait, ça a été finalement l'identification des senseurs, des systèmes de perception des virus. Jusqu'aux années 2000, on se disait bien que quelque part, il devait y avoir quelque chose qui sentait les virus et qui permettait d'y répondre, en particulier d'engager les réponses interférons, puisqu'elles étaient déjà connues. On se disait bien que la réponse immunitaire, qui avait déjà été très 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 bien analysée, y compris bien sûr la réponse adaptative, les réponses de présentation d'antigènes cytosoliques ou cytoplasmiques par les classes 1, tout ça c'était déjà connu depuis le début des années 90. Toute la présentation par les cellules professionnelles, par les antigènes de classe 2, c'était aussi déjà très 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 bien disséqué et expliqué. Et on voyait bien que les virus arrivait déjà à altérer ce type de réponse. Mais on ne savait pas, jusqu'à la fin des années 90, vraiment début des années 2000, comment les virus étaient véritablement perçus par l'hôte. Et ça a été vraiment la première vague de découvertes qui a été les toll-like récepteurs. On en a déjà parlé beaucoup. Qui a amené à partir de 1996, 97, 98 à identifier le fait que des produits bactériens, par exemple, étaient reconnus par TLR2, TLR4, mais qu'on commençait à anticiper que des virus probablement étaient aussi reconnus par ces systèmes, puisqu'on a très vite démontré qu'un certain nombre de récepteurs TOL, en particulier ceux qui étaient internalisés dans des vacuoles d'endocytose, comme TLR3, TLR7, TLR9, étaient capables de reconnaître des acides nucléiques, en particulier pour TLR3 du RNA double brin, pour TLR7 du RNA simple brin, et pour TLR9 du DNA non méthylé, qui plutôt correspond à des séquences d'ADN prokaryotes bactériens. Mais néanmoins, on se disait bien que dire, cette capacité de reconnaître des acides nucléiques, et en particulier quand on connaît la composition des virus, la possibilité que certains aient des ARN simple brun, que d'autres aient des ARN double brun, devait correspondre à des capacités de reconnaissance virale. Donc on a très vite, finalement, à partir de la fin des années 90, commencé à identifier, premièrement, le fait que les virus pouvaient effectivement être reconnus par ces senseurs membranaires ou endocytaires qu'étaient les toll-like récepteurs, et que ceci pouvait se faire par des toll-like récepteurs classiques comme TLR2 et TLR4, par l'intermédiaire non pas de la reconnaissance de leurs acides nucléiques, mais de protéines, par exemple, de capsides qui mimiquent pour certaines d'entre elles certains composants qui sont reconnus par les prokaryotes, par exemple, et puis, bien entendu, par l'intermédiaire de ces récepteurs endocytosés, la reconnaissance des acides nucléiques. Alors, à partir de là, en fait, il y a tout un répertoire extrêmement complexe qui se met en place. Et par un jeu, finalement, de construction, de recrutement d'un certain nombre de molécules adaptatrices, on va se retrouver avec des systèmes, par exemple, médiés par des voies classiques, en particulier par l'intermédiaire de cet adaptateur MID88, qui va nous donner lieu à une activation en fait classique de la voie NF-kappa-B et de la production des cytokines pro-inflammatoires dont on a X fois parlé dans ces présentations, de l'IL-1, du TNF, de l'IL-6. Mais on voit qu'à côté de cette voie d'activation classique, qui peut être engagée encore une fois par les virus, que ce soit encore une fois de l'extérieur ou de ces structures endocytaires, on voit déjà apparaître par l'intermédiaire de l'assemblage d'autres composants comme TRAM ou TRIF ici, la capacité de faire diverger la voie de signalisation et d'aller finalement avec des systèmes qui sont parallèles mais dont la logique est la même, c'est-à-dire des activations successives essentiellement par phosphorylation, par des kinases, d'aller à l'activation de systèmes transcriptionnels comme IRF3, IRF7, IRF5, tous systèmes qui vont en fait mener tout naturellement en parallèle à l'activation de l'expression de l'interféron ou des interférons de type 1, comme je vous l'ai marqué ici. Donc la capacité encore par ce jeu de répertoire de l'extérieur de la cellule ou de l'intérieur des vésicules d'endocytose, par ces différences d'assemblage, d'engager des voies de signalisation pro-inflammatoires, certaines génériques et d'autres tout à fait caractéristiques et indispensables, encore une fois, à la réponse antivirale. Alors, ce qui s'est développé à partir là plutôt des années 2000, c'est-à-dire à partir du moment où on a découvert, je vous ai déjà parlé un peu de la saga des molécules NOD, qu'il existait des senseurs intracytosoliques, à partir de 2003-2004, on a commencé à voir finalement apparaître dans la littérature l'identification d'un certain nombre de senseurs d'acides nucléiques viraux présents cette fois-ci dans le cytosol, ce qui fait du sens en réalité puisque les virus passent une bonne partie de leur vie sous une forme ou sous une autre dans le cytoplasme, voire dans le noyau cellulaire, et il existe des systèmes de perception en fait à l'intérieur du noyau. Alors ces systèmes de perception sont extrêmement variés, je ne peux pas rentrer dans l'ensemble des détails, mais pour se simplifier un tout petit peu la vie, on peut dire qu'il existe des systèmes de perception de l'ADN, et vous savez que, bien entendu, beaucoup de virus ont un génome ADN, les herpès virus, les pox virus, et on les voit ici notés, en particulier ce DAI ou IF116 ou LRMFP1, tout ça correspond en fait à une batterie de senseurs qui vont, en règle générale, reconnaître l'ADN double brun à l'intérieur du cytoplasme. Alors vous voyez bien que ça peut reconnaître autre chose que des ADN viraux, bien entendu, mais néanmoins, ça reconnaît au moins l'ADN viral. Et puis on a deux autres systèmes, très rapidement, parce que comme vous le savez, beaucoup de virus sont des virus à ARN qui ont été identifiés. Il y a le système RIG1 et il y a le système, je regardais en haut aussi parce que je vous ai mis la légende en réalité, la protéine MDA5. Et tout ça correspond à des systèmes de perception virale qui sont assez homologues, en fait, dans la mesure où ils présentent tous une structure modulaire avec un domaine hélicase qui est en fait associé à une activité ATPase qui permet la signalisation. Alors, les ligands de ces récepteurs ou de ces senseurs viraux intracellulaires ou de ces senseurs des acides nucléiques qui, par la force des choses, sont des senseurs viraux, ont été donc identifiés. Ici, par exemple, l'ARN avec en fait trois phosphates. C'est des virus, beaucoup de virus ARN en fait phosphorylent en 5 primes et donc c'est reconnu finalement comme quelque chose de particulier aux virus et pas aux ARN classiques standards du monde mammifère, par exemple. Donc ça va activer la molécule Rig1. On a l'ARN double brun, et il existe de facto de nombreux virus ARN double brun qui sont reconnus par cette molécule MDA5. Et les deux vont en fait converger pour activer cette molécule qui s'appelle MAVS, pour Mitochondrial Antiviral Signaling, qui est en fait une molécule qui, activée par RIG ou MDA, va venir s'associer à la mitochondrie et finalement se servir de la mitochondrie comme plateforme pour engager le processus de signalisation via une autre protéine qui s'appelle STING pour Stimulator of Interferon Gene. Je pense que les termes ou les acronymes ont du sens, qui va engager donc l'activation de ce système. Alors, les senseurs de l'ADN, c'est en gros le même principe, sauf qu'ils entament une voie différente. Ils vont directement interagir avec STING ici, qui est en fait une protéine de signalisation qui est portée par l'appareil de Golgi. Et par cette voie de cette kinase TBK1, TBK1, vont activer par exemple IRF3 et donc activer l'induction de cette production d'interférons de type 1. Et puis il y a des systèmes annexes qui apparaissent de plus en plus, en particulier cette molécule AIM2, qui reconnaît l'ADN double brun et qui est engagée en fait dans ces systèmes dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois d'activation de l'inflammasome, fonctionnant d'ailleurs à la fois dans le cytosol et à la fois sous une autre forme, mais très proche, IF116 dans le noyau. Et ces systèmes viennent s'ajouter finalement à cette panoplie d'expression qui permet à la fois de faire des cytokines inflammatoires classiques, en particulier l'IL1 pour l'inflammasome, et puis ces cytokines très particulières qui sont les interférons de type 1. Donc ça, j'ai balayé un peu le paysage de façon rapide, mais c'est pour vous dire quand même qu'en 10 ans, les choses se sont totalement éclaircies et qu'à quelques exceptions près, on commence à connaître très très bien la manière dont sont sentis les virus, et en particulier les virus ARN sont perçus par l'intermédiaire de ces molécules RIG1 qui ont, comme je vous le disais tout à l'heure, cette structure avec un domaine hélicase, ces fameux domaines CARD pour caspase activation and recruitment domain, qui sont très caractéristiques de toutes ces molécules de signalisation intracytosolique qui sentent les fragments microbiens et éventuellement ici les acides nucléiques, un domaine inhibiteur, et en présence de l'ARN qui va se lier au domaine hélicase, ces molécules RIG1 vont s'oligomériser, changer de conformation, se mettre en conformation active et se mettre en position d'assurer la cascade de signalisation dont on a parlé précédemment. Tout ça, encore une fois, vous pouvez retrouver les références bibliographiques. Alors, peu à peu, à la fois par, on essaye de deviner, compte tenu de la nature des virus, mais aussi par confirmation expérimentale, souvent plus des confirmations expérimentales in vitro que des confirmations expérimentales in vivo, malheureusement, on commence à pouvoir véritablement cartographier le monde des virus et leur attribuer des systèmes de perception particuliers. Par exemple, les virus ADNA double brun, comme les poxvirus ou les herpesvirus, vont être reconnus par TLR9 comme senseur de surface, ou être reconnus par des senseurs cytosoliques comme IF116, DAI, peut-être AIM2 dont j'ai parlé tout à l'heure, qui lui entraîne plutôt l'activation de l'inflammasome. Les virus ARN à double brin, il n'y a pas énormément, mais il y en a qui nous concernent éventuellement, ou le monde animal, comme les rotavirus ou le virus de la langue bleue, Blue Tongue Virus, dans le monde vétérinaire sont sentis, c'est démontré par TLR3 et par MDA5. La grande population des virus à ARN simple brin, il faut la couper finalement en deux sous-populations. Ce qu'on appelle les virus à ARN simple brin positifs, sans positif, c'est-à-dire qu'en fait leur génome est quasiment d'emblée comme un ARN messager et peut être immédiatement traduit. Et ces virus ont en fait dans leur cycle replicatif une étape néanmoins de formation d'ADN double brin, et bien souvent c'est par l'intermédiaire de cet ADN double brin qui vont être reconnus, donc MDA et RIG vont être bien entendu les deux senseurs principaux de ce type de virus. Ça concerne les picornavirus comme les polios, le virus de l'hépatite A, les flavivirus comme la fièvre jaune, le virus de l'hépatite C, le virus West Nile. Ça correspond quand même à un certain nombre de virus tout à fait importants dans notre interface avec le monde humain, disons. Ça concerne aussi les coronavirus, le virus du SRAS ou du SARS qui est reconnu par RIG1 et MDA5. Tout ça a été très vite étudié lors de l'épidémie ou de la début de pandémie de SARS en 2003-2004. Les rétrovirus sont un tout petit peu à part parce que finalement ils jouent sur plusieurs tableaux dans la mesure où ils sont reconnus par TLR7, par TLR8 de par leur ARN. Mais comme ils sont aussi une étape de rétrotranscription et qu'ils peuvent aussi se présenter sous forme d'ADN intégré dans le génome, on pense qu'ils sont peut-être aussi reconnus par des systèmes de reconnaissance de l'ADN, mais ce n'est pas encore à mon avis ou d'après ce que j'ai vu démontrer. Et puis, il y a bien entendu les virus ARN simple brin négatifs, c'est-à-dire ceux qui doivent faire un intermédiaire de manière à synthétiser un brin positif qui va servir à la traduction des protéines. C'est en particulier le virus de la grippe, bien sûr, influenza A, les paramyxovirus, la rougeole, les oreillons. Tout cela, toute cette liste-là commence tout doucement à avoir été analysée et on commence à avoir une petite idée sur les molécules principales de leur reconnaissance, en particulier TLR7 et RIG1. Donc tout doucement, encore une fois, il y a une espèce de cartographie qui s'établit du monde viral dans sa diversité d'acides nucléiques avec les systèmes de perception de surface, endosomo, toll-like récepteur et intracellulaire. Alors ça, c'était pour la réponse innée, c'est-à-dire vraiment les premières étapes, la reconnaissance de ces virus, la mise en place des systèmes de réponse, en particulier inflammatoires et tout particulièrement les interférons de type 1. Mais ce qui est, comme je vous le disais, extrêmement important et essentiel dans l'infection virale et dans le contrôle de l'infection virale par l'hôte, en tout cas pour les autres mammifères comme nous, c'est vraiment le développement d'une réponse spécifique, adaptative, de bon niveau. Donc, on va être là dans une situation de réponse de reconnaissance d'antigènes et de réponse à ces antigènes. Alors, il y a bien entendu l'immunité humorale, hein, vous savez qu'on fait des anticorps contre les virus et que ces anticorps jouent un rôle dans la neutralisation de l'infection virale. Mais encore une fois, il y a d'autres systèmes qui sont importants à prendre en considération. C'est vraiment, en fait, c'est deux systèmes. C'est un, la reconnaissance de la cellule infectée. C'est-à-dire qu'on doit, en tant qu'hôte présentant un système immunitaire fonctionnel, être capable de repérer très rapidement qu'une cellule est infectée par un virus donné et pouvoir détruire cette cellule. Et donc ça va être le rôle en particulier des lymphocytes cytotoxiques. Mais on va avoir aussi un rôle peut-être encore plus élaboré qui concerne l'activation de ce qu'on appelle les lymphocytes auxiliaires, qui vont avoir un rôle extrêmement important à jouer, en particulier dans l'orientation et dans le développement de cette capacité de reconnaissance des antigènes. Donc on est dans un système qui est déjà beaucoup plus complexe, et ce paysage complexe va offrir en fait une quantité absolument spectaculaire d'opportunités pour les virus de faire joujou, si je puis dire, avec le système immunitaire. Alors, je vais juste résumer sur cette diapositive, ou emprunter cette diapositive ici pour résumer la situation, avec le virus de la grippe. Donc, le virus de la grippe, en fait, va entraîner deux types de réponses immunitaires. Une réponse humorale, c'est-à-dire finalement la présentation de ces antigènes va permettre l'activation des lymphocytes B spécifiques en cellules plasmocytes qui vont produire ces anticorps et neutraliser le virus. Mais on a surtout toute la cascade de la défense cellulaire dont j'ai souligné l'importance, avec les cellules présentatrices d'antigènes, en particulier bien entendu les cellules dendritiques, qui vont permettre l'éducation des cellules T-auxiliaires, c'est-à-dire celles qui ont la molécule CD4 et qui vont être capables de reconnaître par leur T-cell récepteur, par le TCR, les épitopes présentés à la surface par les antigènes de classe 2 et activer ces cellules, de manière à leur donner un rôle à la fois dans l'augmentation de cette activité de la voie humorale et de la production de lymphocytes, de la production d'anticorps, et puis bien entendu l'activation de la voie des lymphocytes cytotoxiques qui vont être boostés, puisque les lymphocytes cytotoxiques CD8, ça, c'est en fait le même principe, mais ensuite leur activation va permettre de reconnaître à la surface, je vais revenir là-dessus, des cellules infectées, des antigènes présentés cette fois-ci par les molécules de classe 1 et amener à la destruction de ces cellules infectées. En fait, un virus dont la cellule hôte meurt est un virus mort quelque part, à moins qu'il ait des mécanismes extrêmement efficaces pour aller réinfecter d'autres cellules. Donc, l'hôte, en règle générale, reconnaît le virus, mais tue la cellule qui héberge le virus plus que d'altérer directement le virus lui-même. Donc ça, c'est parmi les généralités un autre élément important à prendre en considération, car là se joue probablement un certain nombre d'événements important dans l'issue de l'infection virale, et là aussi des éléments importants de régulation sont à prendre en compte. En fait, on a deux types d'infections virales, j'en ai parlé un petit peu rapidement auparavant. Il y a les infections aiguës, comme la grippe. Vous avez tous, à un moment ou un autre, j'imagine, fait cette expérience un peu désagréable. Et puis les infections persistantes, comme par exemple les hépatites chroniques, virus B ou virus C. Donc les infections aiguës, la grippe, ce sont vraiment des situations qui sont marquées par en fait un accroissement très très rapide initial du nombre de particules virales associées à une activité cytolytique très très importante. Ce sont généralement des virus très cytolytiques. Et en fait, le virus va être assez rapidement, certes partiellement, mais assez rapidement contrôlé par la réponse innée dont je vous ai parlé, et ensuite, bien entendu, le complément de la réponse adaptative qui va permettre d'éradiquer les dernières cellules infectées. Donc là, on est dans un cas classique qu'on gère finalement plutôt relativement bien en règle générale. Le problème, c'est plutôt les infections persistantes, effectivement, en particulier les virus de l'hépatite B ou de l'hépatite C, l'hépatite chronique, dont on sait en plus que l'évolution prolongée peut finalement donner lieu à la survenue de cancer, vous le savez, pour le cancer du foie, par exemple. Donc dans ce cas-là, malgré finalement une réponse immunitaire qui se développe, on est dans une situation où la production virale continue, même si elle est à très bas niveau, et va donner lieu à des signaux qui sont finalement responsables des troubles chroniques et éventuellement de certaines tumeurs. En fait, on a deux variantes dans ces infections persistantes. Il y a des infections qui peuvent être véritablement latentes, c'est un peu à une extrémité du spectre des infections persistantes. C'est par exemple l'herpès, puisque après une phase de primo-infection herpétique, on va se retrouver parfois pendant des années sans aucun symptôme, et puis parfois avoir simplement l'expression par ces poussées d'herpès labiaux que vous avez peut-être vous-même expérimenté ou vu chez certains de vos proches. On a là finalement une réactivation relativement limitée, mais qui montre que le virus est toujours là, latent quelque part. Donc ça, c'est une situation qui est très caractéristique des virus du groupe herpès. Herpès simplex, cytomégalovirus, Epstein-Barr sont en fait des virus avec lesquels on vit toute notre existence et avec des épisodes plus ou moins désagréables de réactivation. Et puis il y a d'autres infections qui sont peut-être plus ennuyeuses, c'est par exemple le sida, l'infection par le VIH, où on a une espèce de période de latence pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, où on ne note pas finalement la présence du virus, et puis d'un seul coup on s'aperçoit que le système immunitaire a été considérablement altéré par cette infection finalement dans les étapes initiales à bas bruit. Donc on imagine bien que tout ça correspond en fait à des stratégies du côté de l'hôte pour essayer d'éradiquer des micro-organismes, mais malheureusement insuffisamment, et du côté du virus lui-même pour manipuler l'hôte et essayer finalement de trouver cet équilibre qui semble en fait le plus adapté, encore une fois c'est de la coévolution, à sa survie en tant qu'espèce virale. Donc, avant dit tout ça, la conclusion initiale de cette introduction, c'est les virus n'existent que par le fait qu'ils sont capables de manipuler notre système immunitaire. C'est une façon peut-être un peu simpliste de le dire, mais je pense que ça marque essentiellement le message que je voudrais faire passer dans cette présentation. Alors, à partir de là, on peut commencer, avec tout ce que vous savez et tout ce qu'on a discuté jusqu'à présent, à envisager des stratégies virales. On peut commencer à planter des petits drapeaux sur la carte de la réponse immunitaire et à se dire, tiens, peut-être il va se passer ceci ou cela. Alors, je commencerai en fait par vous parler d'immunité spécifique parce que je trouve que les exemples sont immédiatement frappants et illustrent ces stratégies virales. Donc, on peut inhiber la présentation des antigènes par le système d'histocompatibilité de classe 1, je vais y revenir tout de suite. C'est encore une fois la reconnaissance immédiate des cellules infectées par le système immunitaire. On peut inhiber la présentation des antigènes, c'est-à-dire on reprend les choses au début et on empêche la reconnaissance et l'éducation des cellules T. On peut inhiber la lyse cellulaire, on peut interférer avec les mécanismes d'apoptose cellulaire, on peut manipuler l'expression des cytokines, des chimiokines, en particulier de l'interféron gamma, d'interféron de type 1, alpha ou bêta. Donc en fait, toutes les stratégies que je vous ai plus ou moins rapidement dessinées jusqu'à présent, d'une manière ou d'une autre, appartiennent au monde viral dans son opération survie, finalement, dans l'hôte. Alors, la première et le premier exemple que je voudrais développer un tout petit peu, c'est celui effectivement de l'inhibition de la présentation des antigènes par le complexe majeur d'histocompatibilité de classe 1. C'est-à-dire en fait, le virus est dans le cytoplasme, ou en tout cas des composants du virus sont dans le cytoplasme, des protéines du virus sont dans le cytoplasme, et il va bien falloir que la cellule qui héberge ces composants viraux soit reconnue par le système immunitaire et détruite. Donc une cellule infectée par un virus va être amenée à exprimer à sa surface des peptides qui vont bien entendu être reconnus par le système immunitaire et en particulier par ces cellules T, CD8, cytotoxiques dont je vous ai parlé et qui sont essentielles dans cette défense. Donc comment se passe cette affaire ? Le virus se développe en partie, en tout cas dans le cytoplasme, en tout cas il y a des protéines de la capside virale, on a employé tous ces termes la dernière fois, qui sont présents dans le cytoplasme. En fait, ces protéines, ces peptides qui sont étrangers, vont être très rapidement reconnus, en particulier par un système dont on a déjà longuement parlé, qui s'appelle l'ubiquitination. Donc ces protéines ubiquitinées vont être routés vers un système qui, en fait, ça aussi, on l'a déjà mentionné, une usine à protéolyse qui s'appelle le protéasome. Et à l'autre extrémité de cette usine, finalement, vont sortir des petits peptides de petite taille qui auront été maturés, épicés. On parle d'épissage en français, on parle de processing en anglais. Qui sont maintenant dans le cytoplasme. Et ces petits peptides, en fait, doivent rejoindre les antigènes de complexe majeur d'histocompatibilité de classe 1, qui sont, eux, dans le réticulum endoplasmique. Hein, on a parlé de ça le premier jour avec Guizou van der Goot. Il faut trouver un endroit pour passer du cytoplasme à l'intérieur de ces compartiments. Et en fait, il existe grâce probablement à la différenciation du système immunitaire, des transporteurs, des ports qu'on appelle TAP, pour transport antigène, et donc ça forme un port à travers la membrane du réticulum endoplasmique, à travers lequel ces petits peptides vont pouvoir rentrer dans le réticulum endoplasmique, et là ils vont être chargés sur la molécule de classe 1, qui en fait est un dimère qui comporte en particulier cette chaîne lourde qui ressemble en fait à une chaîne d'immunoglobuline et qui est associée pour la stabiliser à une autre protéine qui s'appelle la bêta-2-microglobuline. Donc on a une espèce de petite vallée qui se forme là, dans laquelle finalement va s'exprimer la spécificité de la reconnaissance immunitaire et ne vont se mettre là en fait que les peptides reconnus après ce processing. Et par la voie de la sécrétion classique, via le Golgi, les molécules de classe 1 vont aller s'exprimer à la surface de la cellule et présenter au TCR de la cellule CD8, de la cellule cytotoxique, le peptide en question. Donc c'est vraiment toute la boucle de reconnaissance par les cellules T d'antigènes viraux. Et en fait, la première étape, avant la destruction de la cellule infectée, qui va se faire par plusieurs mécanismes, en fait deux grands mécanismes principaux, l'un qui est l'expression à la surface de ces cellules de ce qu'on appelle le ligand de FAS. FAS, en fait, c'est un récepteur de mort à la surface des cellules. Donc, à partir du moment où le récepteur FAS est engagé par le ligand de FAS, la cellule concernée, c'est-à-dire la cellule infectée ici, va activer un programme de mort cellulaire par apoptose, activer les caspases et mourir. Mais en plus, ces lymphocytes T cytotoxiques ont une capacité de sécréter par l'intermédiaire de molécules qu'on appelle des granzymes. En fait, ce sont un peu comme les peptides antimicrobiens, en fait, ce sont des molécules cationiques qui font des trous dans les membranes. Ces molécules, en fait, vont être sécrétées et participer à la destruction de ces cellules infectées par le virus. Donc voilà un petit peu la boucle, y compris au stade effecteur. Donc je vous ai mis des références bibliographiques, l'une un petit peu historique de Hiddeple, quand il a vraiment, sur la base de ses propres travaux et des travaux de la littérature, vraiment conceptualisé l'ensemble de cette chaîne, et puis des travaux plus récents de mise à jour sur les interactions entre virus et le système immunitaire. Encore une fois, je mettrai tout ça sur le site, vous aurez ces références. Alors, pourquoi je suis rentré un petit peu dans les détails de ces différentes étapes ? Ben, c'est simplement pour vous dire que les virus, bien entendu, ont trouvé là un champ d'action formidable pour aller essayer d'inactiver ces processus de cytotoxicité. Et c'est finalement dans les années 90, déjà beaucoup de travaux ont été faits qui ont permis, sur la base de ces connaissances fondamentales de la présentation des antigènes viraux par les classes 1, de déjà définir un certain nombre de cibles qui sont susceptibles d'être touchées par les virus et inactivées. Je vous ai fait une liste qui est loin d'être exhaustive, bien entendu, où on retrouve encore une fois bien souvent des virus herpès. Je vous ai dit que c'était vraiment les maîtres dans l'art de manipuler le système immunitaire. Par exemple, le virus d'Epstein-Barr a cet antigène A1 qu'on appelle EBNA1, qui contient des séquences riches en glycine et en alanine qui en fait vont inhiber l'ubiquitination de ces protéines dans le cytoplasme et empêcher leur dégradation dans le protéasome. Donc essentiellement, ils vont bloquer l'épissage, la maturation des petits peptides et donc les empêcher, puisqu'ils n'existent pas par définition, de passer dans le réticulum et d'être chargés sur les classes 1. Il y a d'autres possibilités, elles sont listées avec les références bibliographiques, donc je ne rentre pas dans les détails. Une autre étape qui est tout à fait passionnante, je trouve, dans la subtilité des mécanismes d'interaction, c'est qu'en fait, un certain nombre de virus disposent d'effecteurs. Encore une fois, on est dans des virus ADN double brin avec 150-200 gènes, donc ils ont la possibilité d'avoir accumulé un certain nombre de systèmes régulateurs négatifs, qu'ils ont d'ailleurs bien souvent probablement piraté de la cellule eucaryote, c'est-à-dire repris des systèmes de régulation de la cellule eucaryote, des effecteurs de régulation qu'ils ont imbriqués dans leur génome et dont ils se servent pour réguler les systèmes à des stades qui concernent leur développement. HSV1, herpès simplex 1 et 2, par exemple, expriment une protéine, ce qu'on appelle immediate early, ce sont des protéines qui sont traduites assez rapidement et qui assurent le développement du cycle viral. Donc il y a une protéine qui s'appelle ICP47 qui en fait interagit, je vais vous montrer un schéma tout de suite après, avec les deux sous-unités T1 TAP1 et TAP2 qui font le pont à travers lequel les peptides vont pouvoir être transloqués depuis le cytoplasme à l'intérieur du réticulo endoplasmique. Et cette protéine a une affinité absolument phénoménale. Elle a une affinité de 10 000 fois supérieure à l'affinité des peptides eux-mêmes qui doivent s'associer à la partie cytoplasmique du pore avant d'être internalisée. Donc, une compétition, en fait, entre cette molécule virale qui va venir empêcher les peptides d'être transloqués et d'être chargés donc, au niveau du réticulum endoplasmique. Alors, ce transporteur TAP, c'est un transporteur, disons, classique dans sa... dans ses origines, ce qu'on appelle des transporteurs ABC, dont la fonction est activée par l'hydrolyse de l'ATP. Donc il y a de l'ATP et une activité ATPase associée. Ici, on est dans le cytoplasme, dans le cytosol. Ici, on est dans le réticulum endoplasmique. Le système est ouvert en présence de la liaison avec les molécules d'ATP. Le petit peptide va venir passer ces deux domaines cytoplasmiques, s'insérer dans cette zone finalement définie par les deux domaines transmembranaires des molécules TAP1 et TAP2, et l'hydrolyse de l'ATP en fait va amener l'expulsion de ces petits peptides à l'intérieur du réticulum endoplasmique. Donc là, pour un virus, c'est du pain béni hein, d'aller finalement trouver des systèmes qui vont permettre de bloquer ce transport, et au-delà des virus herpès dont j'ai parlé, beaucoup de virus à des degrés variables semblent être capables d'altérer ce processus. Et ils le font véritablement dans un système, encore une fois, où cette molécule, je vais peut-être passer à la diapo suivante, cette molécule ICP47, donc molécule produite par les virus herpès, a une structure très intéressante, parce qu'en fait, elle a un motif hélice, ici, une boucle et une hélice. Et ce motif hélix boucle hélice va lui permettre en fait de venir s'associer. Je suis désolé, le marche moyennement. Va venir s'associer au niveau de la membrane du réticulum endoplasmique. Et en fait, à l'interface entre la membrane lipidique et les molécules TAP du transporteur, vont venir en fait, avec cette affinité énorme dont je vous ai parlé, 10 000 fois celle du petit peptide, bloquer en fait l'entrée des peptides à l'intérieur de TAP et empêcher bien entendu leur passage dans le réticulum et leur présentation. Donc des systèmes véritablement dédiés, très sophistiqués, qui permettent d'aller altérer la fonction d'un élément qui est finalement clé dans les présentations par les antigènes de classe 1. Alors, on a d'autres approches, si je puis dire, qui ont été utilisées par les virus, par les adénovirus, encore une fois, bien souvent, par les virus de la famille herpès. Elles sont listées ici. Je voudrais quand même insister sur une qui m'avait d'ailleurs, il y a très longtemps, beaucoup frappé et qui nous a pas mal fait réfléchir sur les stratégies bactériennes, par exemple. C'est ce travail de Don Ganem à San Francisco et puis d'autres, en particulier Lehner en Angleterre, qui avait montré qu'un virus, qui est en fait encore un herpès virus, qui est l'herpès virus 8, qu'on appelle aussi Kaposi sarcoma herpes virus, vous savez, c'est ce virus qui en particulier se développait de façon non contrôlée chez les patients infectés par le VIH lorsqu'on n'avait pas les trithérapies et qui donnait lieu, par cette prolifération dans les cellules endothéliales, à en fait une prolifération cellulaire endothéliale et ces espèces de lésions qui sont quasiment des lésions tumorales liées à ce virus et à cette prolifération. Alors, ce virus, est capable d'empêcher le recyclage des antigènes de classe 1 à la surface. C'est que les cellules sont relativement parcimonieuses et plutôt que de détruire les récepteurs une fois qu'ils ont servi, bien souvent, les récepteurs sont déchargés et en fait, par un système de sécrétion, passant par un système d'endosome, et ils sont recyclés et retournés en surface. Et ce que fait, en fait, ça c'est une image de sarcome de Kaposi. Donc ce que fait ce virus, en fait, c'est de produire deux molécules qui s'appellent K3 et K5. Et ces molécules K3 et K5, en fait, sont des enzymes de transfert de l'ubiquitine. C'est-à-dire qu'elles sont ancrées dans la membrane de la cellule avec donc cette activité E2, c'est-à-dire d'ubiquitine transférase et la molécule d'ubiquitine, et elles vont venir en fait ubiquitiner la molécule de classe 1, la chaîne lourde de la molécule de classe 1, et bien entendu l'ubiquitination va donner lieu à une dégradation de cette molécule et en fait à la disparition ou à l'internalisation rapide et à la disparition de cette molécule de classe 1, donc de la capacité de présenter les antigènes par des molécules de classe 1 en surface. Donc c'est vraiment un système extrêmement dédié, ça s'appelle MIR1, MIR2 ou K3, K5, en fait il y a eu plusieurs terminologies selon les équipes qui les avaient décrites, mais Laurent Koskoï, qui est chercheur français quand il était en postdoc chez Don Ganem à San Francisco, a vraiment été celui qui, je crois, a fait émerger ce modèle, qui est un modèle tout à fait élégant. Donc, encore une fois, si on ne bloque pas le transport des peptides, on bloque l'expression ou on dégrade ou on empêche le recyclage des récepteurs en surface, ce qui est une autre façon de se protéger contre les cellules T cytotoxiques. Alors, la spécificité de tout ça est relative. En réalité, K3 cible préférentiellement les molécules du MHC de classe 1, mais aussi d'autres molécules, CD1D, qui sont d'ailleurs d'autres molécules qui présentent des lipides en surface, donc ça peut avoir un intérêt aussi, des molécules d'adhésion, le récepteur à l'interféron gamma. Quelle est la logique de tout ça? Ce n'est pas toujours très clair, mais on peut aussi imaginer que malheureusement, la spécificité de ce processus d'ubiquitination n'est pas parfaite et absolue. K5 est encore plus large dans sa variété de molécules, au-delà des classes 1. Vous voyez que les molécules d'adhésion, comme ICAM1, qui est très importante dans l'adhésion des lymphocytes aux endothéliums, avant de pouvoir éventuellement transmigrer dans les tissus. Enfin, vous pouvez vous rebâtir des scénarios à partir de tout ça, qui vont au-delà, pour les bactéries, on avait parlé plusieurs fois de méta-effecteurs. On est là aussi dans des méta-effecteurs, en réalité, c'est-à-dire que ces effecteurs ne paraissent spécifiques que par le biais du fait qu'on a travaillé sur un système donné et que ce système, par exemple, est inactivé comme un classe 1, mais il ne faut pas oublier qu'un système d'ubiquitination de domaine cytoplasmique, de récepteur membranaire, peut avoir, bien entendu, un effet beaucoup plus large et qu'à l'arrivée, la logique de tout ça n'est parfois pas aussi claire. Alors, dans la deuxième partie de cette présentation, je vais essayer de, à partir de, finalement, des généralités que je vous ai offertes ici et puis d'un premier modèle qui est celui l'échappement finalement à la présentation par les antigènes de classe 1 et donc l'échappement au phénomène de lyse cellulaire infectée par les virus par l'intermédiaire des lymphocytes CD8 qui est un élément essentiel dans le développement du processus. J'ai essayé de vous extraire et d'insister un tout petit peu avec quelques exemples à chaque fois sur des thèmes, disons, j'ai mis récents entre guillemets parce que certains sont relativement anciens mais réactualisés avec des découvertes plus récentes ou récents tout court parce que les découvertes remontent à simplement ces 5 dernières années. La première, c'est le fait que les virus antagonisent les mécanismes de mort cellulaire. Alors c'est logique, parce que plus un virus va être capable de faire que la cellule qu'il infecte survit, plus il va pouvoir se repliquer, augmenter sa masse et donc devenir éventuellement plus infectieux de par le nombre de virions qui vont être à terme libérés par cette cellule. Donc ça paraît finalement relativement logique comme mécanisme, et je vais vous montrer quelques exemples. Deuxième élément que je voudrais vous montrer, c'est en fait la modulation par les virus de la fonction des cellules impliquées dans la réponse immunitaire innée, donc réponse cellulaire innée, en particulier les cellules NK, parce qu'il y a un dilemme, on y reviendra rapidement, c'est que en fait une cellule infectée par un virus va exprimer des récepteurs à sa surface qui vont être perçus par ces cellules natural killer comme des systèmes d'activation ou de répression. Et par exemple, les antigènes de classe 1 sont des puissants répresseurs de l'activité des cellules NK. Donc il y a un deal quelque part. C'est-à-dire, si vous ne voulez pas présenter par les classes 1 pour résister à la destruction par les CD8 cytotoxiques, vous vous exposez très rapidement à être détruit par les cellules NK qui, en fait, utilisent l'absence de ce récepteur antagoniste pour vous tuer. Donc on va revenir là-dessus parce que ce sont des domaines en pleine expansion à l'heure actuelle qui valent un petit peu le détour, je dirais, en termes de la qualité des expériences qui le montrent. Il y a des virus, les virus antagonisent les réponses immunitaires innées et en particulier vont s'attaquer, c'est pour ça que j'ai un peu insisté au début sur les voies de reconnaissance virale et les voies d'expression de l'interféron, en particulier des interférons de type 1. Modulation par les virus des fonctions des cellules dendritiques, c'est-à-dire la présentation par les classes 2. Et puis je terminerai avec des nouvelles ouvertures très rapidement sur le rôle des micro-ARN. Vous avez peut-être tous entendu parler des micro-ARN. Ça a valu un prix Nobel il y a 4 ou 5 ans maintenant, découvert initialement chez les plantes comme régulateur, destructeur en fait des ARN messagers. Ce qui est apparu il y a maintenant 8 ans, je vous montrerai le premier papier, c'est que les virus sont capables de faire eux aussi des micro-ARN et d'aller réguler à la fois leur propre développement, leur propre cycle dans la cellule et bien entendu la réponse cellulaire. Donc il y a une batterie de stratégies qui est absolument spectaculaire et je vais essayer de vous amener rapidement à travers tout ça. Donc l'apoptose des cellules infectées, on va parler d'apoptose parce que c'est généralement comme ça que se présente le mode de mort cellulaire. Dans ces conditions-là, je ne vais pas revenir sur l'apoptose, on en a déjà parlé X fois, donc survient directement du fait des conséquences de l'infection de la cellule ou éventuellement indirectement du fait d'un environnement inflammatoire, le tumeur necrosis factor, par exemple le TNF, va activer les récepteurs de mort des cellules. Donc il y a plusieurs situations dans lesquelles la cellule va trouver un environnement qui va amener sa mort ou bien entendu la reconnaissance par des cellules NK ou des lymphocytes T cytotoxiques. Donc à partir du moment où la cellule meurt, c'est quelque part un mécanisme de défense puisque ça va diminuer la production de virions et la dissémination virale. Et de facto, les virus vont essayer, encore une fois, comme je le disais, de faire survivre leurs cellules le plus longtemps possible, leurs cellules hôtes, de manière à lutter contre ça. Et finalement, dans tout ce qu'on commence à connaître de ces mécanismes de mort cellulaire par apoptose, il n'est pas, encore une fois, un seul mécanisme qui n'a pas été touché par un effecteur viral, que ce soit les mécanismes, disons, de mort exogène, c'est-à-dire l'engagement d'un récepteur, comme le récepteur FAS ou les récepteurs au TNF ou TRAIL et ainsi de suite, ou que ce soit des processus de mort endogène médiés par la mitochondrie, ou que ce soit même ce fameux processus de pyroptose dont on a parlé plusieurs fois à l'occasion des bactéries, mais qui s'applique aussi au virus, puisqu'on a vu le rôle de AIM2, par exemple, dans la reconnaissance de l'ADN double brin et l'activation de l'inflammasome. Donc il y a trois grands modèles, ou trois grands types finalement d'effecteurs viraux qui vont s'attaquer, si je puis dire, au problème de la mort cellulaire et essayer de sauver leurs cellules hôtes. Il y a les inhibiteurs des enzymes qui sont responsables de l'apoptose, c'est essentiellement ce qu'on appelle les caspases, on en a déjà, je pense, parlé plusieurs fois. On a des homologues de ce qu'on appelle BCL2. BCL2, c'est une molécule qui est très très importante dans le sauvetage de la mitochondrie au moment de l'induction de l'apoptose. En fait, elle antagonise les altérations de la membrane mitochondriale et elle empêche la sortie de cytochrome C, qui est le signal qui va en fait engager le processus de mort cellulaire, l'activation des caspases. Donc certains virus vont produire des homologues de cette molécule de façon à aller forcer la cellule dans le sens survie plutôt que dans le sens apoptose. Et puis, il y a aussi, de plus en plus, si on prend P53 comme une molécule qui a un rôle dans la régulation de l'apoptose, des molécules virales qui altèrent P53. Donc, en fait, si on regarde un processus de mort cellulaire, par apoptose, il peut être engagé par deux systèmes. Un système, encore une fois, extrinsèque, c'est-à-dire qu'on a, par exemple, ce système de FAS qui est engagé par le ligand FAS, avec ces fameux death domains, DD, qui vont, par l'intermédiaire de cet adaptateur FAD, venir en fait permettre à ces caspases qu'on appelle caspase 8, ou en tout cas pro-caspase 8 avant son activation, de mettre en place le système. Et donc l'activation de caspase 8 par l'engagement du ligand du récepteur FAS va amener à ce clivage de cette protéine BID qui va venir ici faire un trou dans la membrane, pour parler vulgairement, de la mitochondrie, entraîner la lyse de cette mitochondrie, la libération de cytochrome C, la formation de ce qu'on appelle l'apoptosome et la mise en place d'une séquence d'événements avec activation d'autres caspases. En fait, c'est une cascade d'événements qui amène à des activations successives de ces protéases et à la mort cellulaire. Alors, gardez ce nom en tête, FLICE, qui correspond en fait, c'est un homonyme de caspase de 8, et le fait que, comme toujours dans ces systèmes eucaryotes, hein, je ne parle même pas de virus, on a des systèmes de contrôle, de rétrocontrôle, et en particulier une molécule comme FLIP, en fait, qui est un inhibiteur de FLICE, qui est donc un inhibiteur de caspase 8, qui permet de stabiliser un peu et éviter que caspase 8 soit activé en permanence et que toutes les cellules meurent. Donc on a ça, et puis on a bien entendu des mécanismes d'activation intrinsèques qui vont, à partir de récepteurs cytosoliques, aller activer directement ces processus de mort cellulaire. Donc on est dans un paysage en fait que les virus vont adorer essayer de perturber de manière à assurer la survie de la cellule. Et il y a une liste finalement qui s'allonge de plus en plus en fait de molécules virales qui vont être, par exemple, j'avais dit qu'il y avait trois méthodes pour faire survivre la cellule, qui vont être des inhibiteurs de caspase. Par exemple, les poxvirus, ça a été historiquement d'ailleurs, je pense, le premier, le virus de la vaccine, produit une protéine qui s'appelle CRIM-A, qui est en fait un membre de la famille des serpines. Les serpines sont des inhibiteurs physiologiques des sérines protéases, donc des systèmes comme les caspases. Et donc, une fois de plus, probablement, c'est quelque chose qui a été piraté de systèmes cellulaires de régulation et incorporé dans le génome des poxvirus. Et donc, CRIM-A bloque, par exemple, l'activation de pro-caspase 8 et bloque l'activation de pro-caspase 1. Donc, tous les processus en aval sont arrêtés. Et caspase 8, vous avez bien vu que c'est l'essentiel pour la mise en place du processus, disons, d'activation extrinsèque de la mort cellulaire. Alors, CRIM-A est important parce que ça a été pendant très longtemps, nous-mêmes on l'a utilisé pas mal dans le laboratoire, une molécule qu'on exprimait sur un vecteur recombinant ou qu'on micro-injectait à l'intérieur des cellules pour bloquer justement la mort cellulaire, pour aller démontrer le rôle expérimental de l'apoptose dans tel ou tel système. Donc ça, ce sont des inhibiteurs directs, c'est-à-dire que ces molécules vont, en tant qu'inhibiteurs de sérine protéase, en tant que serpine-like, inactiver la maturation des pro-caspases en caspase. Et puis, il y a bien entendu des systèmes plus indirects, je ne rentre pas dans les détails, vous avez toutes les références bibliographiques nécessaires, parfois un petit peu plus complexes, l'une étant quand même tout à fait passionnante, c'est pour ça que j'insistais sur cette histoire de FLIP, c'est-à-dire que certains gamma-herpès virus fabriquent des homologues de FLIP, ce qu'on appelle V-FLIP, hein, vous avez vu la semaine dernière, on en avait parlé, ou la semaine d'avant, je ne sais plus, de V-SARC. En fait, ce sont quasiment des molécules eucaryotes extrêmement homologues aux molécules du mammifère, mais qui sont en réalité fabriquées par le virus et qui donc étaient, d'une manière ou d'une autre, encore une fois, piratées par ces virus pour réguler la réponse d'apoptose. Donc ça, c'était le premier exemple. C'est-à-dire qu'on engage les caspases, on les empêche de s'activer et on arrête très en amont, finalement, le processus de mort cellulaire. Et puis, il y a des mécanismes beaucoup plus... Est-ce que c'est vraiment beaucoup plus sophistiqué ? J'en sais rien, après tout. Mais qui sont... c'était la deuxième modalité, les familles BCL2. Alors, la famille BCL2... je crois que c'est Stanley Korsmeyer qui avait découvert ça à Chicago à la fin au milieu des années 90. Dès qu'on a trouvé l'apoptose, on a éventuellement essayé de trouver ce qui induisait l'apoptose ou ce qui neutralisait le processus apoptotique. Alors très curieusement, il y a toute une famille de gènes en fait qui, la famille BCL2, qui code soit pour des molécules anti-apoptotiques, c'est-à-dire BCL2 lui-même en particulier, soit pour des molécules pro-apoptotiques. Alors c'est un peu difficile de sortir de tout ça parce que quand on vous parle de la famille BCL2, on parle de molécules qui soit sont des molécules qui vont activer la formation de ces pores membranaires qui permettent la libération du cytochrome C et l'activation des caspases, soit on parle de BCL2 lui-même, qui est une molécule qui va contrecarrer ce processus d'altération membranaire. Et donc, bien entendu, si un virus est capable de produire une molécule BCL2 anti-apoptotique, il va inonder, entre guillemets, la surface de la mitochondrie de cette molécule et empêcher, en fait, la libération de cytochrome C et l'engagement de la cascade apoptotique. Donc, on est là dans un système qui, quand même, est très sophistiqué. Une fois de plus, les éléments, les molécules comme BHRF1, BALF1 chez le BV ou certaines molécules produites par HSV8 dont on vient de parler sont encore une fois des molécules qui ont été littéralement, enfin des gènes qui ont été littéralement piqués par ces virus aux cellules de mammifères pour les réorganiser dans leur génome sous forme de système de défense antivirale. Enfin, de défense anti-immunitaire plutôt. Bon, et puis, j'ai mis des références, donc vous n'aurez pas de mal à les retrouver. Les virus peuvent aussi toucher P53, puisque P53, qui est le grand régulateur du cycle cellulaire, peut, dans certaines circonstances, engager les processus apoptotiques, et certains virus vont, en fait, altérer l'expression de P53 ou altérer en aval de P53 un certain nombre de cascades de signalisation. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de rentrer dans les détails parce que ça devient très vite assez saturant. Donc ça, c'était la première série, finalement, d'exemples et de stratégies où les virus vont, par des méthodes extrêmement sophistiquées, inactivation de la maturation des caspases, production de BCL2 inhibiteurs, empêcher la mort cellulaire. Alors, une façon de... Donc là, on était plus dans la mort cellulaire directe, c'est-à-dire la mort de la cellule infectée par le virus et le fait qu'elle finisse par être détruite. Bien sûr, la mort cellulaire, elle peut être causée par des effecteurs extérieurs. Alors, on a parlé des CD8 cytotoxiques et la façon dont le virus pouvait traiter cette problématique des lymphocytes CD8 cytotoxiques. Je voudrais juste vous parler rapidement des cellules NK, parce que les cellules NK, on n'en parle pas beaucoup. On appelle ça sont des cellules natural killers, ce sont vraiment des cellules qui sont en première ligne dans la défense antivirale ou en tout cas dans la destruction des cellules infectées par les virus. Ce sont vraiment des cellules de la défense innée dédiées largement à ce type de travail, si on peut dire. Et ce qui est tout à fait intéressant, comme je le mentionnais très très rapidement, c'est que ces cellules s'activent ou se désactivent sur un système dual. C'est-à-dire qu'elles vont reconnaître à la surface des cellules qu'elles engagent, des cellules cibles, à la fois des récepteurs activateurs qui vont leur dire « vas-y, active-toi et tue cette cellule » et des récepteurs inhibiteurs qui vont au contraire atténuer cette capacité ou bloquer cette capacité de destruction cellulaire. Alors, ces cellules NK, qu'est-ce qu'elles font? En fait, elles produisent des molécules en fait, de destruction cellulaire comme celles dont on a déjà parlé tout à l'heure pour les lymphocytes CD8 cytotoxiques. En même temps, c'est souvent des très très forts producteurs d'interférons, en particulier d'interférons gamma. Donc, elles jouent leur rôle à la fois de cytotoxicité et de régulation et d'engagement de la réponse immunitaire. Donc les cellules infectées par les virus, et de facto les virus eux-mêmes, vont essayer de jouer, entre guillemets, avec cette dualité expression de récepteurs activateurs, expression de récepteurs inhibiteurs. Et bien sûr, le virus gagnant, c'est celui qui va être capable d'empêcher les récepteurs activateurs d'activer les cellules NK et d'induire des récepteurs inhibiteurs le plus possible. Et comme parmi les récepteurs inhibiteurs très efficaces, il y a les antigènes de classe 1, on revient très vite à ce que je vous avais dit antérieurement. Alors, il y a toute une liste maintenant de récepteurs activateurs inhibiteurs, je ne rentre pas dans les détails. Mais, bon, on avait dit que, finalement, pour éviter la reconnaissance par les cellules T restreintes par le MHT de classe 1, de nombreux virus, finalement, régulaient négativement l'expression du MHC de classe 1. Je vous ai montré un certain nombre de stratégies, y compris ce système d'ubiquitination avec les protéines K3, K5 de HSV8. Donc, tout va bien. La cellule est protégée de ces lymphocytes cytotoxiques puisque, pour une façon ou pour une autre, les antigènes de classe 1 ou les peptides présentés par les antigènes de classe 1 ne sont pas là. Le problème, c'est qu'on est là dans une situation, si on n'exprime plus des antigènes de classe 1, on a supprimé de la surface de la cellule ce qui était finalement la famille majeure d'inhibiteurs des cellules NK. Et on se retrouve dans une situation qu'on appelle « missing self-recognition », qui est le fait que, certes, on gagne du côté des cytotoxiques, mais on perd du côté des NK. Et ça vous prouve une fois de plus que, finalement, les stratégies des micro-organismes sont probablement... c'est dur hein, pour eux, parce qu'il faut qu'ils jouent avec des choses qui peuvent être éventuellement antagonistes. Alors, comment ça va se passer? En fait, il y a toujours, bien entendu, des failles dans le dispositif. Un certain nombre de molécules de classe 1 ne présentent pas l'antigène, vont être éventuellement moins sensibles à ces processus de régulation négative par un certain nombre de systèmes de régulation. Certains virus vont en fait diminuer l'expression des classes 1, comme on vient de le dire, mais le compenser par l'induction de l'expression d'autres sous-classes d'antigènes de classe 1, en particulier ce qui sont les HLA-E, qui en fait sont des cellules qui présentent uniquement les peptides signaux des protéines quand la protéine est sécrétée, passe dans le Golgi, en fait elle est sécrétée, les peptides signaux vont être éliminés, mais ils sont eux aussi présentés, mais ça représente une catégorie extrêmement limitée, et donc peu de cellules vont être concernées. Du coup, de surexprimer ce genre de molécules va permettre de calmer les NK, et puis en même temps, va pas trop gêner finalement la réponse immunitaire, puisque ça concerne que des petits fragments de protéines. Donc on a des espèces de jeux extrêmement subtils, extrêmement pervers, où le virus de la dengue, par exemple, va lui carrément augmenter l'expression des antigènes de classe 1 en surface, de façon à inhiber l'action des NK. Ça veut dire probablement que dans le cycle de ce virus, il est beaucoup plus important pour lui en fait, de se défendre très tôt contre les cellules NK que d'ensuite engager des processus plus compliqués en la phase de la réponse adaptative. Il y a bien entendu le processus du missing self qui est là l'échec total pour le virus puisque les cellules de classe 1 ne sont pas exprimées en surface et là la cellule va être tuée. Et puis il y a cette possibilité en fait de switch où on va remplacer les molécules de classe 1 par d'autres molécules de classe 1 moins susceptibles d'assurer cette fonction inhibitrice. Donc vous voyez un peu la complexité des systèmes et finalement la diversité qui est induite par ces phénomènes de coévolution et de nécessité de survie. Tout ça est bien entendu complètement darwinien. Donc à partir de là, on a un certain nombre de stratégies qui peuvent se décliner en plus de ce jeu subtil d'expression des antigènes de classe 1. Et certains virus, par exemple, comme le cytomégalovirus humain, fabriquent en fait des leurres, c'est-à-dire qu'ils fabriquent des faux antigènes de classe 1 qui vont exposés à la surface des cellules qu'ils infectent, de manière à ce qu'ils agissent en récepteurs inhibiteurs reconnus comme tels par les cellules NK, et ainsi de suite, je dirais, les surprises ne manquent pas. Donc, encore une fois, je vous ai mis un certain nombre d'exemples, je ne vais pas prendre ou détailler, ils seront sur le site et vous aurez toutes les références bibliographiques nécessaires. Une seule chose à rajouter, peut-être, parmi les stratégies, c'est qu'il y a des virus qui emploient des stratégies finalement assez simples et brutales. Par exemple, le virus de la grippe, lui, il infecte les cellules NK. Il aime bien les cellules NK, il rentre dedans et il se replique dans les cellules NK, ce qui vous donne aussi une autre façon, finalement, pour un virus de traiter le problème. Peut-être un peu moins subtil, mais en tout cas, ça a l'air efficace. Alors, ça, je vais vous en parler finalement assez rapidement parce que c'est absolument impossible de rentrer dans les détails, dans la mesure où il semble qu'une énorme partie de la stratégie des virus pour se défendre contre le système immunitaire se joue vraiment sur la capacité de rompre le processus de perception de ces virus, et en particulier la capacité de fabriquer de l'interféron de type 1, qui, comme je vous l'ai dit, est vraiment la molécule essentielle. Et en fait, Cette diapositive et les suivantes sont simplement pour vous dire que il n'y a pas quasiment d'étapes. Vous reconnaissez les TOL, TLR2, TLR4, vous reconnaissez les TOL endosomo, TLR3, TLR7, TLR9. Il n'y a pas une étape dans ces différents systèmes au niveau des assemblages précoces des systèmes qui permettent le démarrage de la signalisation, au niveau des étapes plus tardives, déjà à ces stades intermédiaires, voire un petit peu plus tardivement encore, qu'ils soient affectés sous une forme ou sous une autre par un effecteur viral et que ces effecteurs viraux soit dégradent ces molécules, soit s'associent à ces molécules et en empêchent la fonction. Toutes les stratégies sont finalement bonnes à prendre. Et on a le même situation pour tout ce qui concerne les systèmes de perception intracellulaire. On découvre de plus en plus de molécules virales qui altèrent les fonctions de Rig, les fonctions des senseurs de l'ADN et qui, en fait, sous une forme ou sous une autre, à un stade ou à un autre, bloquent cette signalisation qui, pour beaucoup, converge, bien entendu, vers la fabrication, l'expression de cytokines pro-inflammatoires et anti-inflammatoires. Je voudrais juste vous montrer un exemple pour personnaliser un petit peu le propos. Le virus de l'hépatite C, par exemple, code pour une sérine protéase, donc vraiment une protéine qui hydrolyse des substrats dans la cellule infectée, qui s'appelle NS3. Et en fait, je vous parlais de cette, finalement, l'activation de Rig par l'ARN double brin viral va amener à l'activation de cette protéine MAFS qui va s'associer à la membrane de la mitochondrie et finalement mettre en place une plateforme de signalisation qui, par l'intermédiaire de cette molécule STING du Golgi, va amener à l'activation de la voie d'expression IRF3, IRF7, qui donne lieu à la production d'interférons de type 1. Et en fait, cette molécule NS3 du virus de l'hépatite C va carrément hydrolyser le domaine de la protéine MAF, ce qui lui permet de s'associer à la mitochondrie. Donc va empêcher la protéine MAF de venir former cette plateforme de signalisation qui va amener à la cascade d'événements pour la production des interférons de type 1. Donc vous voyez un petit peu, encore une fois, la spécificité et la sophistication de ces systèmes. Il y a d'autres exemples, mais je trouvais que celui-là valait vraiment le détour. Et au-delà, même au niveau de la transcription, on va avoir encore des effecteurs viraux qui vont interrompre au niveau transcriptionnel, au niveau épigénétique, l'activation de ces gènes. Et ce qui est intéressant, j'en avais parlé dans mon première leçon sur les bactéries, on peut reprendre le problème aussi pour les virus. Plusieurs de ces virus ont vraiment permis ce qu'on appelle des breakthroughs, c'est-à-dire des changements brutaux dans la compréhension de certains processus. Et grâce finalement à la sophistication et à un caractère extrêmement dédié, spécifique de certains de leurs effecteurs, ont permis de mettre en selle des protéines, des systèmes qu'on pensait être plutôt en général redondants ou de très faible importance. Par exemple, le virus de la vaccine, cette protéine A52R, s'associe avec ce qu'on appelle interleukin 1 receptor associated kinase 2, IRAK2, qu'on pensait être une molécule relativement redondante et peu importante dans le déclenchement de la réponse innée inflammatoire. Et en fait, c'est grâce à cette molécule que les auteurs ont pu montrer qu'en réalité, IRAK2 était très important. En fait, c'était un peu logique, en aval de IRAK1, dans le processus de déclenchement de la réponse à interféron gamma type 1. Et sur cette base-là, d'autres auteurs ont fait une souris knockout pour IRAK2 et ont pu effectivement montrer que IRAK2 n'était pas du tout une molécule redondante et qu'elle jouait un rôle important dans la réponse. Donc, rôle finalement de ces effecteurs viraux dans l'orientation de la science. Même chose pour cette protéine K7R du virus de la vaccine qui a permis de mettre en selle ces protéines à deadbox DDX3 en particulier. Même chose avec le virus influenza qui a permis de montrer, et c'est le travail de Veit Hornung à Bonn, il y a quelques années maintenant, ça a été publié dans Science en 2006, montrant qu'en fait, l'effet inhibiteur de RIG1 par une molécule qui s'appelle NS1 chez le virus influenza a permis de montrer en fait que l'agoniste de RIG1 était l'ARN simple brun et non pas l'ARN double brun comme tout le monde le pensait auparavant. Donc un vrai rôle en dehors des aspects médicaux, je dirais, dans l'approche scientifique et la validation du rôle d'un certain nombre de molécules qu'on pensait antérieurement redondantes, ou une réorientation de la connaissance. Vous me direz qu'on peut vivre et dormir tranquillement sans savoir que c'est plutôt l'ARN simple brun que l'ARN double brun qui active RIG1, mais bon, il y a des gens que ça empêche de dormir. Alors, les virus antagonisent les réponses immunitaires innées. Je vous en ai déjà parlé. Finalement, tout ce dont je viens de vous parler là vient à dire qu'une grosse partie de la stratégie des virus va être, en tapant en particulier sur ces voies de signalisation à plusieurs niveaux, d'empêcher la production ou l'action des interférons de type 1. Et donc, il va y avoir pas mal de stratégies, l'inhibition de la transcription des gènes, la séquestration de molécules dans les circuits de signalisation, le clivage protéolytique des facteurs, la dégradation par le protéasome de certains composés. On a finalement ce qu'on appelle dans le domaine un vrai circuit de l'interféron de type 1, depuis la reconnaissance jusqu'à finalement à l'action de cet interféron, qui va prêter le flanc en réalité à des stratégie inhibitrice. Je vous montre simplement cette diapositive pour vous dire que les interférons de type 1, c'est extrêmement difficile, ça induit l'expression de centaines de gènes au niveau de la cellule, et un certain nombre, bien entendu, ont du sens par rapport à la réponse anti-infectieuse, à la réponse innée. D'autres sont parfois pas aussi évidents que cela, mais pour vous dire tout de même que activer les voies d'interférons de type 1, c'est un vrai tremblement de terre pour tout ce qui concerne le profil transcriptionnel de la cellule, et c'est la façon de mettre la cellule sur la voie de la réponse antivirale. Donc tout ça, finalement, justifie tout ce que je vous ai dit antérieurement sur la manipulation du système immunitaire. Alors, parmi les données relativement récentes là-dessus, par rapport à ce que je vous ai dit sur les voies de signalisation et en particulier les voies de perception de l'extérieur ou du cytosol, un des éléments le plus récent, c'est en fait tout le fait que ces virus sont capables, soit eux-mêmes, soit le plus souvent par l'intermédiaire des systèmes de modification post-transcriptionnelle des protéines, d'inactiver ces protéines de régulation des voies de signalisation, en particulier, encore une fois, de l'interféron de type 1. Ça va être, bien sûr, l'utilisation du système de l'ubiquitination, mais aussi, de plus en plus, émergent des systèmes parallèles comme le système SUMO, ISG15, ATG6, qui est aux confins de ces systèmes de cascade avec un enzyme 1, O2, O3 et de l'autophagie. Donc, tous ces systèmes sont concernés. Et juste, j'ai essayé de cartographier les systèmes de reconnaissance, à la fois intracytosolique et les systèmes médiés par TOL, par exemple. Et on retrouve, je les ai rajoutés là sur ce schéma, quasiment à toutes les étapes, au moins un effecteur viral qui va, par exemple, pour influenza A, bloquer RIG, pour la protéine P de la rougeole, bloquer l'activation de TRAF6, la fièvre porcine, les rotavirus, en particulier la protéine SFP1, bloquent IKB alpha, et ainsi de suite. Vous avez vraiment peu d'éléments, et encore, probablement, c'est parce que ça n'a pas été découvert, qui ne sont pas la cible, y compris dans des étapes relativement tardives et sur les cellules sensibles, parce qu'une cellule va produire des interférons de type 1 et par un effet autocrine ou paracrine, d'autres cellules vont être sensibles à l'effet de ces interférons de type 1. Et vous voyez qu'on peut là aussi cartographier des effecteurs viraux qui vont bloquer, par exemple, STAT1 et STAT2, qui sont le système de transmission du signal du récepteur IFNAR dont je vous ai parlé, et puis un certain nombre de systèmes d'aval qui vont réguler la transcription de ces gènes dépendants de l'interféron type 1. Et vous retrouvez même des vieilles connaissances, hein, ça, je vous ai parlé de méta-effecteurs, certains vont aller taper encore une fois à d'autres étapes de la voie de signalisation. Donc, simplement, regardez juste l'image, tout ça, c'est toutes les étapes de signalisation et la liste en fait, des effecteurs viraux qui sont susceptibles, sous une forme ou sous une autre, par un mécanisme d'action ou par un autre, d'antagoniser les voies de signalisation qui mènent à l'expression des interférons de type 1. C'est un système absolument phénoménal de concentration de tir, je dirais, sur des nœuds tout à fait importants de la signalisation. Et ça s'applique tout autant pour les systèmes de reconnaissance intracellulaire. Encore une fois, vous aurez les documents, mais gardez plus l'image générale. Une fois qu'on a dit ça, on peut être un peu frustré parce qu'on a une espèce de déflorescence de modèles in vitro dans lesquels ces effecteurs viraux ont été démontrés capables d'inhiber ces voies de signalisation qui amènent à la production d'interférons de type 1. Malheureusement, les modèles in vivo dans lesquels ces systèmes sont validés sont rares. Ça ne veut pas dire que ce qui a été montré in vitro n'est pas valable, ça veut simplement dire que souvent ça n'a pas été validé. Et il commence à y avoir pas mal de modèles, y compris avec des virus très, très méchants, où la réalité in vivo du rôle de ces effecteurs viraux dans l'augmentation de la production, par exemple, de virions par l'animal infecté a été véritablement démontrée, et son effet éventuellement sur la mort de l'animal ou sur la pathologie. Avant-dernier modèle, et là on peut aller très vite parce qu'on a déjà dit tellement de choses que ça va vous paraître tout à fait évident, je ne vous surprendrai pas en vous disant que les virus sont aussi capables de modifier la présentation des antigènes maintenant par les cellules présentatrices professionnelles, en particulier par les cellules dendritiques, hein, qui vont informer les lymphocytes TCD4 et les amener à faire leur fonction auxiliaire. Et le système ici est différent dans la mesure où on n'est plus dans des antigènes qu'on appelle endogènes, c'est-à-dire des protéines virales présentes dans le cytosol, dégradées par le protéasome, amenées par TAP dans le réticulum, présentées par les classes 1 ou chargées sur les classes 1 puis présentées en surface au CD8. On est dans un système d'antigènes exogènes, c'est-à-dire d'antigènes qui sont introduits par la voie classique de l'endocytose, en particulier de l'endocytose médiée par les récepteurs à clatrine, et qui vont, par des voies d'endocytose classiques, venir être chargées sur les molécules de classe 2, qui vont être elles-mêmes, bien entendu, reroutées sur la surface de la cellule pour être présentées aux cellules CD4+. Donc on est là dans un système déjà d'emblée compartimentalisé, et où on va finalement fonctionner non plus par transport du cytosol au réticulum, mais par fusion successive de compartiments qui vont amener finalement ces peptides dégradés par les enzymes lysosomales en fait, dans les compartiments qui possèdent ces antigènes de classe 2. Et donc tout ça, ce n'est pas une surprise si je vous dis que les virus ont appris aussi à bloquer cette présentation par les classes 2, en inhibant les antigènes de classe 2 dans leur expression en surface, dans leur recyclage, en interférant avec les voies de l'endocytose, en inhibant l'expression telle qu'elle peut induite, par exemple, être induite par l'interféron. Encore une fois, on peut reprendre et cartographier sur ce cycle de présentation par les cellules présentatrices professionnelles comme les dendritiques et y voir un certain nombre d'effecteurs. Je terminerai en deux minutes sur, disons, les nouveautés parmi les nouveautés dans ces processus de régulation et les nouveaux concepts dans le contrôle, finalement, de l'immunité par les virus et en particulier cette notion de micro-ARN. Vous savez qu'on connaît maintenant, parmi les mécanismes de régulation d'expression de gènes, un système particulier qui correspond à ce qu'on appelle les micro-ARN. Ce sont des petits ARN qui sont codés par notre génome, par le génome des mammifères, de petite taille, ils font environ 23-25 nucléotides, et qui sont finalement exportés, processés par cette enzyme qui s'appelle Dicer, et qui vont aller s'hybrider avec les ARN messagers, avec des ARN messagers homologues, pour lesquels cette nécessité de micro-ARN est indispensable pour la régulation, et former ce système finalement de qu'on appelle RISC ici, qui est un système de RNA inducing silencing complex, c'est-à-dire qu'en fait cet hybride entre le micro-ARN processé et l'ARN messager va être dégradé, et donc l'activité traductionnelle, bien entendu, va s'arrêter. Donc ça, c'est un système général qui a été montré initialement chez les plantes, qui est maintenant connu très largement chez les mammifères. Et finalement, il est presque pas surprenant, à la limite, qu'en 2004, le groupe de Thomas Tuchel ait montré que même des virus produisaient leur propre micro-ARN et que ces micro-ARN, finalement, pouvaient jouer un rôle régulateur. Alors, quand on prend le site de Mirbase, qui est le site de référence pour la mise à jour, finalement, des micro-ARN identifiés, on trouve environ 200 micro-ARN d'origine virale. L'immense majorité, en fait, sont des virus à ADN qui se repliquent dans le noyau, herpes virus, alpha, bêta, gamma. Il y en a, par exemple, 7 identifiés pour herpes virus simplex 1, 35 pour le BV, et au-delà des herpès, 2 pour les poliomavirus. Donc, curieusement, il semble que ce soit quelque chose qui soit très largement restreint aux virus à ADN qui se repliquent essentiellement dans le noyau, comme les herpès virus. Par exemple, il n'y a pas de micro-ARN produit par les virus à ARN jusqu'à présent. Bon, tout le monde en voulait, on n'en a pas eu, et malgré ce qu'on appelle maintenant le deep sequencing, c'est-à-dire vraiment d'aller séquencer le dernier des derniers des ARN de la cellule, on n'a pas trouvé dans les cellules infectées par des virus ARN des micro-ARN. Et curieusement, des virus, je vous ai montré le cycle du virus de la vaccine, qui est un cycle essentiellement cytoplasmique, la semaine dernière, dans ces phénomènes de régulation, de jeu avec les microtubules et l'actines. Ces virus qui restent cytoplasmiques, bien qu'étant des virus à ADN double brin, ne font pas de micro-ARN. Donc, il y a quelque chose qui est restreint au noyau et qui est probablement lié au fait qu'il faut qu'il y ait cette enzyme DROCHA qui permet en fait la maturation initiale. Et comme cette enzyme est nucléaire, il est fort probable que seuls les virus qui sont dans le noyau et qui ont la capacité de pirater la fonction enzymatique de DROCHA dans le noyau ont pu développer ce type de stratégie. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait passionnant, mais qui correspond quand même à une classe de virus tout à fait essentielle, puisqu'on est en train de parler là d'herpès virus. Et d'emblée, on se met à rêver que tous ces mécanismes extrêmement mal compris de latence puisse être en partie lié à l'expression dans la phase de latence de ces virus de micro-ARN qui permettrait de réguler, par exemple, négativement leur replication. Donc, on a de plus en plus d'exemples de ces micro-ARN dans une fonction d'inhibition de l'immunité à médiation cellulaire, dans des ciblages des inducteurs de l'apoptose et des régulateurs du cycle cellulaire, où le virus du sarcome de Kaposi, une fois de plus, est en vedette. Et puis, toute cette possibilité, finalement, que dans la latence virale, le virus puisse avoir une action sur lui-même dans la régulation négative d'éléments importants dans l'induction de sa replication. Et puis, bien entendu, dans ce jeu subtil avec le système immunitaire où ce virus peut jouer un peu sur des finalement des mécanismes de switch on and off qui vont lui permettre, comme par exemple le virus, le cytomégalovirus, de réprimer un gène transactivateur en fait, qui induit le passage latence cycle lytique. Donc on est là vraiment dans une régulation au niveau même du virus. Donc on est dans une situation où on voit de plus en plus de ces virus à replication nucléaire, comme les herpès, à la fois par ces micro-RNA réguler leur propre transcription en dégradant un certain nombre d'ARN, dont certains sont sans doute importants dans le cycle viral, et puis éventuellement allant aussi réguler un certain nombre de fonctions cellulaires, comme les fonctions de cycle, les fonctions d'apoptose, les fonctions d'équilibre immunitaire qui permettent cette espèce de statut qui est la latence, et ainsi de suite. Ça, c'est vraiment un domaine qui est en pleine explosion. Puis tout le monde adore les micro-RNA parce que c'est nouveau, parce que c'est intéressant à les chercher et parce qu'à chaque fois qu'on en tire un, finalement, en gros, on gagne. Donc ça fait des belles publications pour l'instant. Ça durera ce que ça durera, mais c'est néanmoins vraiment un nouvel angle de compréhension de la régulation qui est vraiment au cœur des messagers, et on peut imaginer l'importance que ça peut avoir. Donc je terminerai là-dessus, simplement pour dire, en gros, je vous avais fait un peu ce schéma d'activation, on reste dans l'immunité innée, la voie d'NF-kappa-B, de la voie des MAP kinases. Et on s'aperçoit de plus en plus, encore une fois, on cartographie des régulateurs, que virus et bactéries pathogènes, c'est un peu le même combat. Hein. On a des systèmes qui régulent la réponse des molécules TOL, des systèmes qui régulent la réponse à ces senseurs intracytosoliques chez les virus. Et puis on peut rajouter immédiatement à côté de ça une couche de régulateurs viraux comme les protéases de chlamydia qui vont dégrader les facteurs de transcription comme NF-kappa-B au même titre que certains effecteurs de vaccines, les effecteurs de Shigel dont je vous ai parlé qui bloquent la voie des MAP kinases, d'autres effecteurs qui bloquent l'ubiquitination de la phosphorylation, donc l'ubiquitination de I-kappa-B, et qui sont donc des molécules anti-inflammatoires. Enfin, si on additionne toutes ces données virales et bactériennes, et encore une fois, je ne vous ai pas parlé des parasites, mais encore que les systèmes soient un petit peu différents généralement, on est vraiment dans un foisonnement de systèmes de régulation qui est à la fois passionnant, qui a expliqué ces dernières années énormément de notre interface avec le monde microbien, en tout cas le monde microbien infectieux, comme les virus, les bactéries pathogènes, mais qui, à terme aussi, représente des espoirs dans le développement de nouvelles approches ciblées contre ces effecteurs ou utilisant les cibles de ces effecteurs comme des cibles possibles pour des médicaments qui mimeraient en fait les fonctions de ces effecteurs. Et moi, je pousse beaucoup, en particulier l'industrie pharmaceutique, à s'intéresser à tous ces systèmes de régulation, parce que je pense que c'est une source d'innovation en matière d'agents anti-infectieux, d'agents immunorégulateurs, d'agents immunosuppresseurs, d'agents anti-inflammatoires, qui est finalement quasiment insondable en termes de richesse. Le problème, c'est que c'est un petit peu en amont. On aime bien dans l'industrie avoir déjà des produits à un stade avancé avant de mettre les choses dans les étapes suivantes de développement. Il faut trouver un peu, quelque part, un nouveau système ou de nouveaux paradigmes pour finalement combler un peu ce gap entre cette recherche, je dirais, ultra fondamentale qui apporte des informations tout à fait pertinentes et puis la possibilité de mettre un certain nombre de ces données dans le pipeline, éventuellement de développement thérapeutique ou vaccinaux. Donc voilà en gros ce que je voulais vous dire sur l'immunomanipulation par les virus. Je suis désolé, c'est très compliqué, mais c'est compliqué pour moi aussi, hein, rassurez-vous, et pas que pour moi d'ailleurs. J'ai essayé de vous décanter un certain nombre de choses. Voilà. Au moins vous avez compris que c'est compliqué, c'est déjà peut-être un progrès. Donc je vous remercie pour votre attention.